10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde ne suffit pas, votre émission d'actualité internationale sur Transistor. À mes côtés, toujours fidèle au poste, Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour Fabien, bonjour à tous. Cette semaine, LMNSP se dédouble pour vous. Vous retrouverez, comme toutes les semaines, le tour du monde de l'actualité, ainsi que notre dossier consacré à l'Europe de l'Est. 20 ans après la chute de l'URSS, avec la participation de nos correspondants en Pologne, en Roumanie et en Allemagne.
Mais pour l'heure, place au tour du monde de LMNSP.
Et on commence, Fabien, par un coup d'œil sur Cuba.
Oui, Antoine, et il sera bientôt plus facile aux Cubains de se connecter avec le monde et vice-versa. En effet, l'île va bientôt bénéficier d'un accès Internet de qualité grâce à la mise en place d'un câble à fibre optique entre Cuba et le Venezuela. Le slogan de l'entreprise de télécommunication Entel annonce que Cuba sera « en ligne avec le monde ». Cet accès pose aussi des questions politiques. Jusque-là, l'accès ne se faisait que par satellite, via un organisme d'État qui limitait l'accès. Par exemple, seuls les journalistes et les étrangers bénéficiaient d'un accès presque total. Les administrations n'avaient qu'un intranet et d'autres n'avaient même qu'une boîte mail. L'arrivée de la fibre optique compliquera ce contrôle pour le gouvernement. Cependant, l'accès démocratique à Internet n'est pas pour demain. Le nombre d'ordinateurs est fort réduit à Cuba par l'investissement que cela représente pour les habitants. Ainsi, un ordinateur vaut aujourd'hui plus de 500 pesos, tandis qu'un salaire moyen de fonctionnaire n'est que d'environ 25 pesos par mois. Et loin de Cuba, Antoine, en Europe, on fête l'anniversaire d'un récent pays.
Et ce récent pays, jeune de 150 ans, c'est l'Italie. Jeudi dernier, 17 mars, jour de fête nationale, la péninsule en forme de botte a célébré ses 150 ans depuis la proclamation du premier roi d'Italie, Victor Emmanuel, et ouvert des festivités nationales qui doivent durer 9 mois. Plus de 100 000 personnes ont défilé dans les rues de Rome pour écouter des opéras de Verdi et de Puccini, le visage peint aux couleurs de l'Italie. Pourtant, et sans mauvais jeu de mots, l'Italie a fêté son unification dans la division. En effet, la désormais très influente Ligue du Nord, aux velléités séparationnistes, a boycotté l'essentiel de ses festivités. Silvio Berlusconi lui-même, soucieux de ménager son allié politique, a dû cacher son enthousiasme. La Ligue du Nord a même refusé l'idée de ne pas travailler ce jour d'anniversaire, tant de crises obligent, et ironisé sur le fait que les drapeaux italiens faits pour l'occasion étaient « made in China ». Et on part maintenant en Égypte, où après la révolution, l'UNESCO craint pour le patrimoine du pays.
Eh oui Antoine, l'UNESCO a fait part mardi de son inquiétude grandissante pour les sites archéologiques en Égypte, estimant qu'ils sont en danger en raison des pillages courants depuis la révolution. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, s'est dit inquiète et encourage les autorités égyptiennes et internationales à prendre des mesures concrètes, ne serait-ce que pour bloquer les objets retrouvés sur le marché de l'art. Lors d'un colloque, l'archéologue égyptienne Jian Saki a ainsi raconté que, je cite, « Récemment un chauffeur de taxi m'a dit que maintenant qu'il n'y avait plus d'argent, l'imam de la mosquée voisine m'avait affirmé que c'était permis de vendre des antiquités si on en trouvait. »
Sait-on quels biens ont été volés, Fabien ?
Les sources égyptiennes sont parfois muettes, mais des archéologues se sont engagés pour plus de transparence afin de pister les biens sur les marchés. Ce que l'on sait à ce jour, c'est que des pillages ont eu lieu au musée égyptien des antiquités, à Kantara dans le Sinaï et à Kafr el-Sheikh dans le delta du Nil. Pillage au cours duquel, d'ailleurs, une quarantaine de personnes armées ont agressé les gardiens pour s'emparer de biens. Côté objets volés, parmi les plus belles pièces, il y a les délicates statues en bois dorées de Toutankhamon, celles de Néfertiti en calcaire, ou encore de nombreux bronzes ou figures des dieux. Nous sommes actuellement à plusieurs dizaines d'objets de valeur, plus patrimoniales que réelles, qui ont été volés. Et Antoine, nous partons maintenant en Chine, après que l'Assemblée nationale populaire vient d'entériner le 12e déjà plan quinquennal.
Et un plan quinquennal marqué par des réformes importantes. On ne connaissait pas vraiment des ambitions vertes à la Chine, et pourtant la seconde puissance économique mondiale vient de prendre d'importantes mesures écologiques. Comme par exemple la réduction de 16% de ses rejets de carbone, la création de 12,5 millions d'hectares de forêts supplémentaires et la réduction de 8 à 10% des émissions de polluants dans les cours d'eau et les fleuves. Pékin a d'ailleurs pris des mesures économiques également en décidant de réduire la croissance de 7% contre 10,5% à l'heure actuelle. Selon le Premier ministre Wen Jiabao, ce sera, je cite, « l'opportunité d'ajuster le mode de développement économique et de régler les déséquilibres, le manque de coordination et de durabilité qui ont prévalu en Chine depuis longtemps ». Fin de citation. Ces décisions arrivent dans le contexte d'un malaise social grandissant et dont se font l'écho les députés. Même si leur pouvoir est surtout symbolique, il semble que le régime chinois ait préféré prendre les devants, et ce d'autant plus qu'il craint une contagion révolutionnaire issue des mouvements arabes, comme l'évoquait Fabien la semaine dernière. Et on termine, Fabien, comme d'habitude, par le palmarès de la semaine. Le chiffre de la semaine est 442. À quoi correspond-il ?
442, c'est le nombre de réacteurs nucléaires actuellement en fonctionnement sur la planète. Les États-Unis sont le premier pays par le nombre de réacteurs, avec 104 modèles en fonctionnement, devant la France et ses 59 réacteurs. Et enfin vient le Japon, troisième, avec 53 réacteurs. La catastrophe de Fukushima a d'ores et déjà conduit de nombreux pays à inspecter la sécurité de leurs centrales.
Dans un climat politique très lourd entre crise nucléaire japonaise et guerre civile libyenne, passons à quelque chose d'un peu plus gai maintenant, l'info insolite de la semaine.
Gai n'est pas le terme, Antoine, malheureusement. Car cette semaine, je voudrais évoquer une disparition. Souvenez-vous, chers auditeurs, de vos escapades de jeunesse à la boulangerie du coin, où quelques centimes en poche, vous achetiez ces chewing-gums rosés jaunes. Ce temps est révolu, chers auditeurs, car Monsieur Malabar, l'icône bodybuildée au t-shirt jaune, n'est plus, après 42 ans de bons et loyaux services. Le chat Mabule le remplace désormais, même si des groupes de consommateurs, j'insiste, militent activement pour le retour de l'homme en jaune. Mais une question reste en suspens, quid des tatouages insérés dans l'emballage ? On ne sait pas encore si Malabar développera une nouvelle collection.
Oui, bien triste nouvelle en effet. Toute l'équipe de LMNSP vous tiendra bien sûr au courant des événements de ce dossier. On termine tout de même, Fabien, par la citation de la semaine.
Et une fois n'est pas coutume, Antoine, on la doit cette semaine cette citation à un Français, Éric Zemmour, qui lors d'une chronique sur RTL, comparant les révolutions arabes et le printemps des peuples de 1848, a déclaré à propos de Bernard-Henri Lévy, BHL, et de son engagement pour la défense des droits de l'homme au nom de la France, je cite, « au XXIe siècle, on a les Lamartine qu'on peut ». Cette émission s'achève, mais vous pouvez nous retrouver dès maintenant pour le dossier de la semaine. Nos trois correspondants, l'un à Varsovie, l'autre à Berlin et le dernier en Roumanie, vous disent tout sur l'Europe de l'Est, 20 ans après l'URSS.
Et d'ici là, nous espérons, chers auditeurs, que jamais le monde ne vous suffira.